France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et si la surexposition aux écrans chez les enfants était un désastre sanitaire, une pandémie numérique, comme l'affirment ce matin nos invités. De nombreuses études scientifiques convergent, la surexposition aux écrans aurait un impact sur leur neurodéveloppement, leur langage, leur vision, leur motricité, leur comportement, leur sommeil. Alors que faire? Faut-il complètement interdire les écrans? Oui, mais jusqu'à quel âge? Est-il trop tard si nos enfants manipulent tablettes et smartphones depuis leur plus jeune âge? Constats et solutions avec nos invités, pédiatres, neurologues et enseignants. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
C'est comme si un fil invisible... Et ben il venait, il t'accrochait sur le cerveau, juste pour que tu restes devant ton écran, assis, debout, sur le canapé, sur le lit.
Les enfants et même les parents, ils peuvent pas vivre sans des écrans en fait. C'est leur vie les écrans, on dirait ils vont se marier avec un téléphone. En fait c'est leur vie, ils peuvent pas se détacher et donc après si on les enlève par exemple les enfants, ils vont carrément faire une crise pour les téléphones.
C'est vrai que ça pose une question sur ce qui se passe dans notre cerveau.
C'est comme les papillons de nuit, ils sont attirés par la lumière et nous on est attirés par la télé, par les écrans. T'as le réflexe en fait, tu vois une lumière en plus, elle va sauter à tes yeux, tu vas le regarder direct par réflexe.
Extrait de l'excellent documentaire de Gilles Vernet, « Et si on levait les yeux ?» Bonjour docteur Sylvie Dieu-Ozica.
Bonjour.
Bonjour Éric Ozica, vous êtes pédiatre, tous deux membres fondateurs du collectif Surexposition Écran. Vous exercez en libéral à Rosny-sous-Bois, Sylvie Ozica, et à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Éric Ozica, vous pratiquez à Brie-sur-Marne. Et vous publiez chez Grasset L'enfant écran, sous-titré Comment échapper à la pandémie numérique. Bonjour docteur Servan Mouton.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, neurophysiologiste. Vous avez co-présidé la commission sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, avec un rapport rendu en avril 2024. Vous publiez chez Gallimard dans la collection Tract, Écran, un désastre sanitaire. Bonjour Agnès Fabre.
Bonjour.
Vous êtes professeure de lettres et membre fondatrice du collectif Éducation numérique raisonnée qui alerte sur les risques de la surexposition aux écrans. On vient d'entendre des enfants là dans ce documentaire, ils sont assez formidables. Sylvie Dieu-Ozica. Ils ont tout compris,
absolument. Oui. Ils sont réveillés, ceux-là, hein, contrairement à nombreux des gens qui nous entourent. On n'a pas encore bien réagi. Bien sûr, Ils ont tout compris. Ils parlent de technoférence, c'est-à-dire le parent qui est pris par son téléphone et qui ne répond plus à ses parents, et puis par ses enfants qui sont captés aussi. Mais ils sont captés parce qu'on leur donne un produit qui est fait pour ça, qui est fait pour les rendre captifs, qui est même fait pour les rendre addict, on va dire le mot, d'emblée. Parce que tout est calculé pour.
Et la technoférence, je le rappelle, c'est l'interférence de la technologie dans les relations humaines. Alors, nous allons partir du constat que, évidemment, la surexposition aux écrans produit des effets délétères sur la santé des enfants. Nous ferons des propositions concrètes. Mais avant ça, que répondez-vous à celles et ceux qui pourraient vous accuser d'effrayer, de relayer des paniques morales en parlant de pandémie numérique, de désastre sanitaire, des termes très frappants, Sylvie Dieu-Ozica.
Très frappant parce que c'est le constat qu'il faut faire et ça nous le faisons depuis 10 ans avec notre collectif sur exposition écran et c'est pour ça qu'on l'a écrit dans notre livre « L'enfant écran ». Il se passe quelque chose de majeur, on vit tous une révolution numérique, chacun de nous a changé dans son quotidien. Pourquoi l'enfant n'est pas impacté? Pourquoi on le laisse au bord de la route et il se retrouve pas évidemment impacté par ce qui est en train de se passer? C'est grave, vraiment c'est grave, et il ne s'agit pas de mauvais parents, il s'agit de parents qui ne sont pas informés et qui devraient être informés dès la grossesse, dès la maternité, parce que c'est ce qu'on voit dès la maternité dans tous les foyers.
Éric Ozica, pourquoi parler de désastre sanitaire et de pandémie numérique?
Alors, la pandémie numérique, c'est parce qu'on s'aperçoit qu'elle touche vraiment tous les enfants, quel que soit l'âge et quels que soient les pays. On est frappé quand on s'intéresse aux études que vous avez des études japonaises, canadiennes, de Nouvelle-Zélande. Tous les pays, tous les continents sont impactés. Et puis, pourquoi désastre sanitaire ? Parce que l'ensemble des éléments de santé, que ce soit et donc le sommeil, que ce soit le cognitif, que ce soit le relationnel, sont impactés. Et donc, quand ça touche autant de monde sur des sujets aussi divers, on parle à ce moment-là de désastre sanitaire.
Servane Mouton, c'est le titre de votre livre, Écran, désastre sanitaire, c'est un titre très fort.
Il est encore temps d'agir. Mmh. Et le sous-titre.
C'est le sous-titre, évidemment. Mais pourquoi parlez-vous, vous, en tant qu'honorable neurologue et neurophysiologiste, pourquoi parlez-vous de désastre sanitaire ?
Comme le dit Monsieur Osika, c'est la santé globale qui est mise en jeu lorsqu'on est exposé et lorsqu'on utilise les écrans. Il y a un discours qui ne doit plus être entendu, qui est celui de dire il y a un bon usage des écrans, il y a le contenu, et du contenu dépend les effets qu'aura cet usage des écrans. Ça n'est pas complètement vrai. Bien sûr, un contenu inapproprié, un contenu pornographique, hyper violent, un contenu pour adultes auquel serait confronté l'enfant aura un impact. Mais l'outil numérique est un outil physique, il a des caractéristiques physiques, et à ce titre, il a des conséquences sur la santé physique, sur la vision. Également, parce qu'il conduit à des activités sédentaires, il compromet la santé métabolique, cardiovasculaire, et également sur le sommeil. Et le sommeil est un pilier de la santé. Et lorsqu'il est altéré, c'est toute la santé qui est mise en jeu.
La santé mentale.
La santé mentale,
notamment.
La santé physique et les apprentissages.
Sylvie et Eric Osika, vous parlez-vous d'une urgence sanitaire, sociale et politique ?
Absolument. Il faut agir et ça fait très longtemps qu'on n'agit pas. Il faut savoir qu'il y a 10 à 15% des parents qui respectent la recommandation, notamment en France, pas d'écran avant 3 ans. Et en fait, elle n'est pas du tout respectée. On met des tas de choses dans les carnets de santé, mais on ne dit pas la vérité, on va le dire comme ça, aux parents sur, justement, les effets des écrans parce qu'ils ne sont pas accompagnés, parce que les contenus ne sont pas éducatifs ni pédagogiques, comme c'est souvent dit. Et puis, un point qu'on va dire tout de suite aussi, nous déclarons être sans conflit d'intérêts, et ça aussi, le discours ne sera pas le même en fonction de ses intérêts.
Vous n'avez aucun conflit d'intérêts, c'est bien de le dire. Bien avant les chercheurs, ce sont les praticiens, les professionnels de terrain qui sonnent l'alerte sur les effets de la surexposition des écrans chez les enfants. Vous, c'est au milieu des années 2010, Sylvie Osika, que vous entrevoyez les premiers signaux d'alerte ?
Oui, enfin ça fait quelques temps, 2010-2015, où en fait, il suffit d'être sur le terrain, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe, et toute personne, je pense, voit dans les transports, dans les restaurants, dans les magasins, ce qui se passe, et il se passe la même chose dans les foyers. On utilise les écrans pour calmer l'enfant, pour l'occuper, et soi-disant pour lui apprendre quelque chose. Seuls les parents sont capables, en présence, en étant disponibles, d'apprendre aux enfants à parler, tout simplement. Et là, on est en train de créer du handicap par défaut d'information.
Agnès Fabre, je rappelle que vous êtes enseignante. Que constatez-vous, vous, sur le terrain ? Ça fait à peu près 8-10 ans que vous êtes enseignante.
Alors, je dirais que c'est aussi sur l'expérience de terrain que je m'appuie et sur laquelle on a cofondé ce collectif d'enseignants. Juste un petit mot sur éducation numérique raisonnée. On est des enseignants de la maternelle à l'université. On enseigne dans le public et dans le privé, partout en France. Et notre constat est le même, quel que soit le public auquel on s'adresse, tous jeunes enfants ou universitaires, c'est les ravages du numérique récréatif sur nos élèves. Donc tout ce que vous dites, sur quoi vous alertez dans vos livres, on le retrouve concrètement chaque jour dans nos classes. Des élèves fatigués, des élèves qui ont du mal à se concentrer, des élèves qui ont des problèmes de santé mentale, des élèves qui vont pas bien. Et l'objectif de notre collectif, c'est justement d'impliquer l'école, parce qu'on s'arrête pas à ce constat, on a des solutions concrètes très simples à proposer. D'impliquer l'école pour lutter, accompagner les parents et protéger nos élèves.
Et on reviendra sur les réponses concrètes en fin d'émission. Moi, il y a un témoignage qui m'a frappé dans votre livre, Sylvie Diosica et Eric Osika, c'est ce petit Liam au début de votre livre. Racontez-nous qui est Liam et pourquoi il est venu consulter dans votre service de l'hôpital Jean Verdier. C'est l'une des seules consultations.
C'est la seule consultation hospitalière à la PHP. Il y a d'autres consultations en ville, mais donc
consacrée
depuis 2019.
Consacrée à la surexposition des écrans.
Oui, où je reçois des enfants, où je recevais avant des moins de 6 ans. Maintenant, je reçois des enfants de 3 ans, comme Liam, qui arrive avec des parents qui pensent avoir bien fait, qui ont mis les écrans à leurs enfants en pensant que c'était éducatif, pédagogique. Sur certaines antennes, on entend ce genre de choses.
Par exemple, des vidéos en anglais.
Par exemple,
YouTube.
Alors que les parents ne sont pas anglophones, mais ils se disent, après tout, il va apprendre quelques mots d'anglais. Moi, parent, je ne sais peut-être pas bien faire, donc peut-être que mon enfant va apprendre des choses avec le numérique. Et ça commence très tôt. Et il faut arrêter de dire qu'il s'agit de mauvais parents, encore une fois. Les parents se font avoir. Ils se retrouvent captifs avec leur enfant. Ça dure une demi-heure pour le calmer, pour l'occuper. Et puis après, c'est une heure, c'est deux heures. Et c'est comme ça qu'on arrive à des temps d'écran extrêmement importants pour ces enfants.
Quelles étaient les pathologies qui frappaient Liam? Racontez-nous un peu.
Eh bien, ces petits garçons, comme d'autres, parlent le YouTube leash, hein, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'ils répètent des mots qu'ils ont entendus pendant des heures et des heures sur les écrans,
sur
avec
YouTube.
Une absence de langage. Ils ne font qu'un langage plaqué, répété. Ils n'ont pas d'interaction avec les autres. Ils ont des troubles du sommeil, comme on l'évoquait, des troubles de la motricité fine, des incapacités à s'adapter. Et ils arrivent à la petite section de maternelle où les maîtresses disent c'est un enfant écran, il est en difficulté.
Éric Ossica.
Oui, je voulais redire que, en fait, nous, on est des pédiatres, donc on s'intéresse à l'enfant. Et quand on sait comment grandit un enfant, comment il fait pour développer ses capacités cognitives, on comprend évidemment que les choses ne vont pas. Un enfant, il grandit parce qu'il expérimente, il explore en permanence. On a la chance d'avoir une petite fille là, qui a 15 mois. Elle n'arrête pas. C'est-à-dire qu'elle essaye à droite, elle essaye à gauche, elle teste l'espace, elle teste ses propres possibilités. Et en fait, après, quand elle va dormir, elle engrange toutes ses connaissances pour le passer dans des régions profondes pour que ça l'aide. Et donc, elle entre en relation. Elle est en relation permanente avec tout ce qu'il y a autour, avec le chat qui passe, avec ses parents, avec le premier enfant qui passe de l'autre côté. Et tout ça, c'est ce qui va lui permettre d'accéder à des choses essentielles, au langage, parce qu'elle comprend l'absence, la présence, puis le langage, puis après les autres éléments du cognitif. Et tout ça, évidemment, ça ne se fait que dans le regard de l'autre et avec l'autre. Et donc, évidemment, que lorsqu'on passe une heure et plus sur un écran, ben, on ne peut pas bosser tout ça.
Moi, ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est la question du temps volé, en fait. Le temps que passent nos élèves sur un écran, c'est du temps, en effet, qu'ils ne passent pas à faire autre chose. Alors, on parle de lire, de jouer, de courir, de bouger, etc. Mais moi, j'aimerais bien insister sur le temps de l'ennui, où en fait, nous, on a des élèves qui ne s'ennuient plus, qui n'ont jamais de temps libre. Et le temps libre, en fait, il est fondamental, il est structurant pour l'enfant, pour l'adolescent. Et on en a besoin, nous, professeurs, parce qu'il y a ce qu'on leur apprend à l'école. Et il y a tout ce temps libre qui doit servir à leur créativité, qui doit être un moteur pour l'enfant, et qu'il n'a plus, qui est complètement épuisé. Et c'est ce qu'on veut remettre en avant aujourd'hui. Et ce pourquoi, en fait, on veut alerter aussi avec notre collectif Éducation numérique raisonnée.
Bonjour, docteur Adrien Chaboch.
Bonjour, Ali.
Quel est le menu de votre chronique Quoi de neuf, docteur, vers 11h20?
Alors aujourd'hui, écoutez, on ne pourra pas nous faire un portrait à charge. Je vais essayer d'amener une compréhension de l'usage de réalité virtuelle dans les soins de façon contrôlée et précise.
Je veux mon iPad.
Grand bien vous fasse.
Chérie, c'est pas possible.
Mais si, je le veux, moi. Elle est
fatiguée.
Sur France Inter.
Assiste-t-on à un désastre sanitaire, à une pandémie numérique concernant la surexposition des enfants aux écrans? C'est notre question ce matin. Docteur Servane Mouton, je rappelle que vous êtes neurologue et neurophysiologiste. Pour bien planter le décor, j'aimerais que vous nous parliez de cette cohorte ELF qui rassemblait des enfants nés en 2011. C'est quoi cette cohorte ELF?
C'est ce que vous venez de dire. Ce sont à peu près 10 000 enfants nés en 2011 qui sont suivis depuis donc, leur naissance sur différents paramètres de santé. Et en particulier, une publication a été faite l'an dernier sur le lien entre l'exposition aux écrans et le développement neurologique, socio-relationnel de ces enfants. Et qui montrait une association négative entre un temps d'exposition aux écrans des 30 minutes par jour et des moins bonnes performances sur le plan du langage et des compétences socio-relationnelles. Deux petites précisions. Ces enfants sont nés en 2011, donc ont aujourd'hui bientôt 14 ans. Donc ils sont nés bien avant la pandémie Covid, pendant laquelle, on le sait, les temps d'écran ont augmenté, sans revenir à ce qu'ils étaient auparavant. Donc, dans cette cohorte d'enfants, les temps d'écran estimés étaient d'environ une heure à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, une heure et demie ensuite à 3 ans et demi, à 5 ans et demi, c'est probablement au-delà.
Et à 10 ans et demi, c'était 2h36. Et il y a une enquête 1K3, et pour l'année 2015-2016, donc c'était déjà il y a 10 ans, le temps d'écran des 3-6 ans était d'1h47, il était de 3h38 pour les 11-14 ans et de 4h50 en moyenne pour les 15-17 ans. Et je le rappelle, ces chiffres dataient d'il y a 10 ans. Et j'imagine que ça a augmenté, notamment pendant la pandémie. Éric Ossica, vous êtes le co-auteur de l'Enfant Écran.
Oui, je voulais aussi rappeler que ce sont des moyennes. C'est-à-dire
ce sont des
que
moyennes.
Une moyenne, ça veut dire qu'il y a un écart-type, deux écart-types. Donc il y a effectivement probablement des enfants, souvent d'ailleurs, peut-être dans des milieux très, très éduqués, qui n'ont pas d'écran. Mais ça veut dire que de l'autre côté, on le sait, avec des niveaux socio-économiques plus difficiles, chez les garçons par exemple, les temps d'écran, le dernier baromètre américain qui s'appelle Common Sense Media montre bien qu'il y a des différences énormes entre les uns et les autres et que parler de temps moyen, c'est
et c'est déclaratif, donc souvent sous-estimé.
Sylvie Diosica, que répondez-vous à certains chercheurs qui vous rétorqueraient « c'est pas le temps d'écran le problème, mais plutôt le contenu et la manière d'accompagner les enfants dans leur consommation d'écran
C'est l'ensemble, en fait, c'est l'ensemble. C'est le temps passé qui est du temps perdu à tout ce qu'a besoin de faire un enfant, ce qu'on a dit tout à l'heure. Les contenus qui sont addictifs par nature, encore une fois, pas oublier la captologie, le persuasive design, et qui est soumis aussi aux enfants qui vraiment souffrent de ça et qui veulent toujours plus ce qu'on leur donne, comme dans les processus, encore une fois, addictifs. Et puis aussi le parent qui n'est pas disponible pour son enfant, parce que lui-même capté, et donc les relations qui seront de bien moins bonne qualité. Et on voit des troubles, des interactions précoces qui s'installent de ce fait.
Le persuasive design en bon français.
Ou captologie.
Docteur Servan-Mouton.
Pour compléter, et je voudrais revenir aussi sur cette frontière des 3 ans qui est souvent qui a été très diffusée avec les connaissances qu'on avait à l'époque. Les 3, 6, 9, 12, ça reposait sur des connaissances d'il y a 20, 25 ans. Depuis, les publications scientifiques ont continué à arriver. Et les connaissances des conséquences de l'exposition des enfants aux écrans se sont aussi accumulées. Cette frontière des 3 ans, elle ne repose plus sur de la littérature scientifique. Ce sont en fait les 6, voire 7, on va dire les 6 premières années qui sont fondamentales pour la construction neurologique, socio-relationnelle de l'enfant et qui devraient le voir préservé de l'exposition aux écrans.
Si je vous comprends bien, ça veut donc dire pas d'écran avant l'âge de 6 ans.
Oui. Pour des raisons de santé physique liées à l'impact sur la vision, parce que l'œil de l'enfant n'est pas un œil d'adulte, il est particulièrement vulnérable à l'exposition à la lumière artificielle et en particulier au bleu, à la richesse en bleu de la lumière des écrans, qui augmente le risque de myopie et qui peut avoir aussi des effets toxiques sur la rétine. Et la deuxième chose, c'est que le contenu de l'écran ne correspond pas, et ça a été vraiment bien expliqué par mes collègues, ne correspond pas aux besoins de l'enfant qui a besoin de mettre en jeu tous ses sens pour que ses réseaux neuronaux se consolident, se construisent et fassent de lui un être éveillé et prêt à appréhender le monde. Toute cette phase d'exploration des 6 premières années est fondamentale. C'est là-dessus que vont se construire les apprentissages.
Agnès Fabre, je rappelle que vous êtes enseignante.
Je pense que la difficulté, en fait, c'est que de l'outil numérique, c'est son caractère extrêmement attractif et séduisant pour l'enfant. On est tous pris dans cette contradiction, dans ce rapport complexe au numérique. On est tous accros à notre téléphone. Et donc, on peut comprendre que c'est très, très difficile pour un enfant de s'en détacher. Et ce que nous, on voit en tant qu'enseignants, c'est la difficulté qu'introduit l'écran ou le smartphone dans les familles. Ça crée des conflits. Les parents sont démunis face à cet outil. Ils ont du mal à réguler, à limiter, à maîtriser le temps d'écran de leurs enfants. Et on pense qu'il faut une réponse collective. Il faut que l'école les aide, mais aussi une vraie volonté publique de limiter et de réguler.
Docteur Servan-Mouton, pouvez-vous nous expliquer, je rappelle que vous êtes neurologue, pourquoi les enfants sont autant attirés par les écrans et pourquoi ils ont autant de mal à décrocher? Bref, pourquoi leur cerveau est-il autant excité par l'usage des écrans?
Il faut revenir sur ce qu'est l'attention, en fait. Quand on parle d'attention, en réalité, il y en a globalement deux. Il y a celle qu'on appelle l'attention automatique, qui est déclenchée par des stimulations de l'environnement. Une stimulation visuelle, auditive, va automatiquement la mettre en jeu. Et cette attention, elle est en place dès la naissance, quasiment. On fait des petits sons à côté d'un tout petit bébé, il va avoir tendance à tourner le regard, à tourner la tête vers cette stimulation. Et puis l'autre type d'attention, c'est l'attention volontaire ou dirigée, qui, elle, va se mettre en place petit à petit et nécessiter de l'entraînement, de la pratique, pour être consolidé par la mise en jeu de ces réseaux neuronaux qui la sous-tendent. Si on met un enfant devant un écran qui est la caricature des stimuli automatiques, il ne va pas être concentré sur l'écran, il ne met pas du tout en jeu sa concentration. Il est automatiquement happé par le contenu et il va rester captif. Si ça arrive une fois de temps en temps, ça aura peu de conséquences sur son développement. Mais si cette mise en situation devant un écran se fait de façon répétée, régulière, alors que son cerveau est censé aussi apprendre à se concentrer, alors ça va compromettre ses capacités de concentration à long terme.
Sylvie Diosica.
Ben c'est comme ça que les choses se passent, c'est-à-dire c'est 5 minutes, 10 minutes, et puis après on l'utilise pour manger, c'est vrai qu'il ouvre bien la bouche, et puis pour se calmer, et puis pour s'occuper. Et puis il y a aussi cette petite musique qu'il faut redire, les parents pensent aussi très sincèrement que c'est éducatif, pédagogique, parce que l'industrie du numérique a bien fait son travail et a passé ses messages, et donc il faut vraiment alerter, c'est les parents qui apprennent à leurs enfants à parler et à évoluer dans le bon sens.
Et puis nous autres adultes, nous ne sommes pas forcément exemplaires, nous sommes accros à cette outil qui offre tant de possibilités, Servan Mouton, le smartphone, un outil de communication et de paiement, un titre de transport, un agenda, un moyen de se divertir, un indicateur d'itinéraire, un appareil photo, une caméra, une manière de rencontrer des gens. Voilà, nous sommes nous-mêmes accros. Et comment être des exemples et inciter nos enfants et nos adolescents à ne pas à moins utiliser les écrans quand nous-mêmes nous sommes immergés totalement dans cette entre guillemets, emprise numérique.
C'est un sujet vaste. Alors, je vais juste revenir un petit peu, mais c'est pour répondre de façon un peu détournée à votre question. Ces deux systèmes dans le cerveau qui sont mis en jeu par l'usage des écrans et sur lesquels repose notre tendance à être très attiré par eux, c'est le côté attentionnel et puis le système de récompense dont on parle beaucoup. Là aussi, il y a deux systèmes de récompense qui fonctionnent un peu en parallèle, mais de façon très intriquée en réalité. Le système de récompense à court terme, qui va être activé par une récompense à court terme, un clic, un like, une nouveauté. La nouveauté est un très bon moyen de stimuler ce système de récompense. Et l'outil numérique, que ce soit en particulier des smartphones, mais aussi des tablettes et même des dessins animés, vont activer de façon extrêmement facile et sans aucun effort ce système de récompense à court terme. Et c'est à chaque fois des shoots de dopamine, qui font qu'on va toujours courir après un nouveau shoot de dopamine. Si on a dans la main ou à proximité, hein, ce type de stimulation source de plaisir, la solution de facilité va être d'y retourner puisqu'elle nous procure du plaisir. L'autre système de récompense, qui est lui le système de récompense à long terme, qui nécessite de travailler pour avoir une récompense peut-être largement aussi satisfaisante, mais différée, va s'en trouver affaibli. Donc un enfant qui est, alors qu'il est en train de se structurer, on a besoin de ces deux systèmes de récompense. On fonctionne par ce système de recherche du plaisir, notre attention est guidée aussi par ça. Mais si on est adulte et à peu près arrivé à maturation cérébrale dans de bonnes conditions, on sera plus armé en tout cas pour résister à cette attraction. Je ne dis pas qu'on est totalement vacciné contre le risque, mais en tout cas on est mieux armé. Un enfant qui voit la structuration de son cerveau compromise sur le plan du système de récompense dès sa tendre enfance, va avoir beaucoup de mal à résister aux impulsions, à cette récompense facile, en un clic. Et après, voilà, je sors, du coup je reviens à votre question précisément, mais c'est évident que l'outil numérique tel qu'il est conçu aujourd'hui, on peut même plus parler d'addiction. À mon sens, on ne parle pas d'addiction quand il s'agit d'un outil du quotidien, d'un outil de travail. C'est simplement que toute notre attention va être tournée vers lui et qu'il a envahi l'espace quotidien. Et là, et notre espace mental du quotidien. Et là, c'est une réflexion politique bien plus que médicale.
Et vous sujet. Y revenez dans votre livre, Servan Mouton. Agnès Fabre, je rappelle que vous avez cofondé le collectif Éducation numérique raisonnée.
Oui, alors juste pour rebondir sur ce qu'on disait, un petit exemple simple, je pense qu'on voit aucun parent fumeur qui, sous prétexte qu'il fume même, donne des cigarettes à leurs enfants de 4-5 ans. Et inversement, on connaît des parents qui ont essayé d'arrêter de fumer parce qu'ils ont cherché à avoir un meilleur cadre de vie pour leurs enfants. Donc moi, je crois beaucoup qu'il y a une sorte d'optimisme à avoir, de se dire, nous, on n'a pas bien su gérer notre rapport au numérique, mais qu'on peut, par nos enfants, être tiré vers le haut parce que nos enfants nous forcent en fait à repenser nos usages et à vouloir le mieux pour eux.
Sylvie Diosica.
Oui, tout à fait. Le parallèle, on le fait dans notre livre « L'enfant écran » sur l'alcool et puis bien sûr sur le tabac. Clairement,
c'est des analogies qui sont très fortes.
Qui sont très fortes et qui sont une réalité. Les parents ont envie de bien faire. Par définition, leur bébé arrive et ils ont envie de bien faire et d'être donc informés honnêtement. Honnêtement, je dis bien. Et ce n'est pas le cas sur la problématique du numérique. Et si on leur dit que le tabac, c'est nocif pour leur enfant, auprès de leur enfant, eh bien, vous voyez ce qui s'est passé ces dernières années. Moi, je ne vois quasiment plus de parents avec un bébé et en train de fumer une cigarette. Ils disent bien qu'ils vont sur le balcon, ainsi de suite. Bah, pourquoi pas avec les écrans? On pourrait y arriver.
Ma fille qui a 13 ans, elle reste éveillée jusqu'à 3 heures du matin à regarder son téléphone pour se réveiller à 6 heures du matin pour se préparer pour aller à l'école. En fait, moi, j'élève mes enfants toute seule, donc j'ai perdu tout contrôle. Mes enfants passent énormément de temps sur leur téléphone.
extrait du documentaire « Et si on levait les yeux » de Gilles Vernet. L'un des premiers impacts sanitaires de la surexposition des écrans chez les enfants et les adolescents, c'est le sommeil, docteur Sylvie Diosica.
Oui, le sommeil est impacté dans sa qualité et dans sa quantité.
Et c'est vraiment une constante, quel que soit l'âge, donc c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire que quand on travaille sur les effets des réseaux sociaux, sur la santé mentale, le sommeil intervient en premier lieu, et on s'aperçoit aussi dans les études que le sommeil est impacté chez le tout-petit. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de parents qui disent « mon enfant ne s'endort qu'avec son écran », et on sait que dans ces cas-là, le sommeil va être retardé, le sommeil va être de plus mauvaise qualité. Et c'est central. On pourrait même s'arrêter là, parfois. On dit, quels sont les effets? L'effet sur le sommeil est tel, et on a tellement de publications sur pourquoi le sommeil est essentiel pour l'enfant, qu'on pourrait déjà comprendre que, évidemment, ça ne peut pas bien se passer avec cet écran qui modifie les choses.
Docteur Servan-Mouton, sur ces effets du manque de sommeil, de cette fatigue chronique chez les enfants surexposés aux écrans?
C'est ce que dit mon collègue. J'avais oublié, avant de retravailler sur les écrans, à quel point le sommeil était central dans notre santé. On a tendance à le voir comme quelque chose d'assez accessoire. C'est plus agréable d'être en forme, on est de meilleure humeur, moins irritable, etc. Mais pour un enfant, c'est fondamental, parce que si il, et pour l'adulte aussi, mais pour l'enfant c'est vraiment encore, tout est plus fondamental chez l'enfant. Un sommeil compromis, ça veut dire une mémorisation moins bonne, ça veut dire une attention moins bonne, et ça veut dire donc des apprentissages fragilisés. Mais à tout âge, le manque chronique de sommeil, donc le fait de ne pas dormir suffisamment et ou moins bien pendant des semaines, voire des mois et des années, ça favorise les maladies cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité, l'anxiété, la dépression, certains cancers, notamment le cancer du sein, les infections, les accidents,
l'immunité.
Oui, l'état des infections. Ouais. Donc c'est vraiment un pilier de notre santé globale, et il est totalement inconséquent de ne pas réagir de façon massive, en fait, à ce risque. Aujourd'hui, je vais citer juste deux rapports pour le sommeil et la sédentarité. Des rapports de l'Institut National de la Vigilance et du Sommeil qui concluaient que les écrans étaient au centre des préoccupations des spécialistes concernant les problèmes de santé des Français. Et un rapport de l'ANSES sur la sédentarité et l'inactivité physique, qui date de 2016 et 2020, sur les moins de 18 ans, qui disait « Nous alertons les pouvoirs publics. Il est inhabituel que dans les études d'évaluation des risques telles qu'en fait l'agence, nous aboutissions à la conclusion que près de 50% de la population étudiée, donc les moins de 18 ans, sont à risque sanitaire élevé. » Quand on sait que dans les études, la sédentarité est évaluée par le temps d'écran.
Et c'est, la professeure Martine Duclos, que nous invitons régulièrement dans cette émission, grande spécialiste de la sédentarité, nous alertait dans l'une des précédentes émissions de l'augmentation très très forte des cas de diabète de type 2 chez les enfants et chez les adolescents. Sylvie Diosica.
Ce qu'on vient de dire, la sédentarité, effectivement, dans toutes les études, est mesurée par le temps d'écran. Et donc, les risques, effectivement, d'activité physique moindre, et donc ses conséquences physiques, l'obésité, et effectivement, les liens avec le diabète, l'hypertension, avec toutes les maladies cardiovasculaires. On touche vraiment la santé dans sa globalité, mais encore une fois, on va avoir des tout-petits qui vont se retrouver avec des tas de maladies diverses, et en plus, avec des troubles du langage et avec des difficultés importantes. Je reviens sur le sommeil, c'est vraiment essentiel. Hein, la frustration, l'humeur également, évidemment, est touchée, on le sait tous. Hein. Mais un enfant, quand il se construit à 18 mois, 2 ans, le manque de sommeil a un impact extrêmement important sur sa patience, évidemment, et ses capacités de compréhension.
Agnès Fabre, que constatez-vous du point de vue de ce manque de sommeil réparateur chez les élèves que vous côtoyez depuis une dizaine d'années?
Des élèves qui sont très fatigués, oui, qui dorment. J'ai un collègue, Jean Latré, qui a commencé à supprimer les téléphones, enfin à réquisitionner les téléphones de ses élèves en début du cours. Et ce qu'il dit, c'est qu'au début, ils dorment en fait, parce qu'ils sont épuisés, parce que ce qui les tient, c'est justement la notification, c'est leur attention qui est constamment sollicitée jusqu'à très tard dans la nuit, on le sait. Et quand on lâche, quand on leur reprend, ils s'effondrent en fait. Donc il y a un vrai sujet en effet, mais aussi d'attention, de concentration. Et qui dit crise d'attention, dit aussi crise de lecture, du langage et de la pensée. Donc il y a beaucoup aussi d'autres conséquences qui sont autres que sanitaires, mais que nous on voit dans les performances scolaires, dans le développement de la pensée critique.
Eric Osica.
De Common Sense Media, je cite beaucoup parce que c'est vraiment une source inépuisable de données. Là, évidemment, c'est chez les Américains, donc on peut dire que peut-être en France c'est différent, mais je ne le crois pas. Ils ont publié il y a quelques mois un truc qui s'appelle Constant Companion, le compagnon constant, et ils ont mis des mouchards sur les téléphones. Et en fait, un ado moyen reçoit entre 400 et 500 notifications par jour. Et ils sont globalement sur les écrans toute la nuit, une partie de la nuit jusqu'à des... Quand on regarde les diagrammes, on est surpris. C'est-à-dire qu'à 3h, 4h, 5h du matin, ils reçoivent encore des notifications. Ils sont encore sur les écrans et ça reprend des potrons minés, des 6h15, c'est reparti. Et après, bah, il faut se lever et aller au collège. Hein.
J'adore cette expression, des potrons minés. J'adore. Docteur Servan Mouton, par quel processus la surexposition des enfants aux écrans peut détériorer leur santé mentale et affecter leur développement socio-émotionnel ?
Le côté socio-émotionnel, c'est vraiment chez le tout petit, c'est ce qui était évoqué par Madame Diosica, la régulation des émotions. L'enfant est agacé, frustré, on lui donne l'écran plutôt que de l'accompagner dans sa colère, dans sa frustration, il ne va pas apprendre à la gérer et ça deviendra le doudou systématique qui n'est pas très aidant à l'âge adulte. Sur la santé mentale, le sommeil, on l'a cité, le manque chronique de sommeil favorise la détérioration de la santé mentale. Et puis, donc voilà, déjà on a dit ça. On a déjà dit une grosse chose. Et puis, il y a aussi la place des réseaux sociaux qui, aujourd'hui, ne sont pas reconnus comme étant pour ceux d'addiction. On ne parle de comportement addictif que pour les jeux vidéo en ligne. Aujourd'hui, on parle d'Internet Gaming Disorder. C'est la seule entité qui soit reconnue par la classification internationale des maladies.
Ça veut dire quoi en français ?
La classification Internet trouble du jeu vidéo. Voilà. Ouais. Mais c'est probablement une histoire d'année pour les réseaux sociaux.
Oui. Allez-y.
Oui. Mais les réseaux sociaux sont pointés du doigt depuis quelques mois, on en parle beaucoup, et ils contribuent probablement par leur rôle d'amplificateur des tendances. Quand on est dans une situation de vulnérabilité, et là, vulnérabilité, on peut mettre tout, une orientation sexuelle minoritaire, le fait d'être dans un milieu social économiquement défavorisé, le fait de vivre une rupture sentimentale, d'avoir des parents qui divorcent, d'être en échec scolaire, bref, en situation vulnérable, l'adolescence est une période compliquée, expose au risque d'être pris dans une spirale descendante avec des contenus que nous avons aimés, qui nous sont reproposés et qui correspondent à, par exemple, l'apologie des automutilations, du suicide, des troubles du comportement alimentaire, etc., et qui nous tirent vers le bas.
Louisiane nous demande, est-ce que les liseuses peuvent avoir un impact sur le cerveau des enfants ?
Par le sommeil, ouais. Par l'impact sur le sommeil, par la lumière, ça dépend après de la technologie de la liseuse. Ouais. Mmh. C'est possible.
Eric Osica.
Oui, non. Là, c'est un petit peu plus compliqué si on parle de vision, évidemment, hein, puisque on sait que regarder un écran de façon proche, ça impacte sur la vision.
On ne dit pas assez que cette surexposition des écrans altère la santé visuelle, l'utilisation prolongée des écrans qui peut entraîner de la fatigue oculaire, des troubles visuels, des yeux qui piquent ou qui brûlent, sans oublier des effets néfastes sur la vue avec des risques accrus de myopie.
Oui. Parce que je pense que c'est des données récentes. Maintenant, c'est beaucoup les Chinois qui publient sur ce sujet. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si on compare la lecture sur une liseuse ou la lecture sur une tablette et la lecture sur un livre, on n'a pas du tout les mêmes effets. Et c'est c'est pour ça qu'on dit ne remplacez pas les livres à l'école par un outil numérique. Parce que ce n'est pas du tout équivalent. C'est-à-dire que si c'est pour mettre simplement sur une tablette le livre équivalent, vous n'avez pas les mêmes effets. Et ils font donc évaluer à chaque fois les bénéfices et les risques de ce qu'on met dans les mains des enfants, notamment à l'école, ce qui n'est pas fait actuellement. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas.
Et pour aller dans ce sens, Chris nous écrit, comment expliquer que les municipalités mettent entre les mains des petits-enfants scolarisés des tablettes et développent et prônent le numérique à tout va pour attirer les enfants dans les musées, par exemple. Arrêtons ce double langage, nous dit Chris Agnès Fabre.
Alors, on est entièrement d'accord. En fait, il y a vraiment un problème d'injonction contradictoire. D'une part, on alerte sur les dangers des écrans, de l'autre part, l'école ramène vers une connexion des élèves. En fait, le premier problème, c'est le partage des compétences. C'est les collectivités qui financent les équipements. De la même manière qu'un enfant peut donner un écran aussi pour faire plaisir à un parent, les collectivités territoriales aussi, d'une certaine manière, se rendent populaires auprès des familles en distribuant des tablettes et des ordinateurs. Parfois même
c'est de la démagogie numérique.
Alors c'est soit la démagogie, soit c'est une ignorance en fait, du problème. Et c'est là où je pense qu'il faut parler du problème de la surexposition aux écrans. Et ça fait partie de notre objectif, c'est de faire de l'école une solution au problème et pas renforcer le problème. Parce que oui, aujourd'hui, l'école renforce l'hyperconnexion des élèves et on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Très important ce que vous dites, Agnès Fabre. Sylvie Diosica.
Oui, bah oui, oui. Les...
Si vous disiez le contraire, je serais un peu étonnée.
Non, pas du tout, évidemment. Évidemment. Et ça pose d'ailleurs problème aux parents, parce que, évidemment, on leur explique les conséquences sur la santé générale, sur le sommeil, et ils nous disent, bah oui, mais à l'école, on est obligé de leur laisser l'accès aux écrans, et c'est compliqué, moi je travaille, et donc il va aller sur Internet. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'on utilise à but récréatif quand on a eu la tablette et l'accès à Internet via l'école.
Éric Osica.
Moi, je parle beaucoup du mythe du numérique, c'est-à-dire que on parle dans notre livre du mythe de Sesame Street. Sesame Street, c'est le seul...
Un rue Sésame, pour ceux qui étaient nés dans les années 70, voilà. Avec le personnage de Toccata, dans mon souvenir.
C'est le seul programme éducatif qui a été mis en place au temps de la télévision, dans les années 60, et on a vraiment espéré aux États-Unis que ça allait pouvoir diminuer la fracture entre ces enfants qui arrivaient à l'école, qui savaient peu de choses, et les autres. Et puis, malgré les efforts de Sesame Street, on s'est aperçu que même si on peut apprendre quelque chose à partir de certains programmes extrêmement bien faits, ça ne réduit en rien la fracture entre les uns et les autres.
Allez, il est 10h42, l'heure de la chronique Quoi de neuf, docteur Adrien Chaboche.
Ah ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Alors, docteur Adrien Chaboche, la réalité virtuelle est-elle à soigner?
Eh bien, rappelez-vous, Ali, en 1999, David Cronenberg sort le film Existence, où Jude Law y est perdu dans un monde confondant le réel et le virtuel, connecté par une prise insérée dans la colonne vertébrale. Ça fait un peu froid dans le dos, parce que c'est pas forcément de la science-fiction quand on sait que Elon Musk veut greffer des puces dans notre cerveau avec Neuralink. En réalité, la fascination pour la réalité virtuelle a commencé bien plus tôt. En 1957, le cinéaste Morton Halick invente le Sensorama, une machine pour nous plonger dans un univers sensoriel. Et dès les années 90, le docteur Hunter Hoffman utilise la réalité virtuelle pour soulager la douleur chez les grands brûlés. En France, en 2017, le docteur Thomas Grégory réalise même une opération chirurgicale assistée par casque de réalité virtuelle. Alors rentrons dans le sujet, je vais vous raconter l'histoire de Paul. Paul, un bel adolescent de 15 ans, qui rêve d'un voyage linguistique à l'étranger. Mais pour lui, monter dans un avion, c'est juste absolument impossible. Il ne s'agissait pas d'une légère anxiété qu'on peut avoir, mais d'aviophobie sévère, touchant 5% de la population quand même. Une terreur si intense qu'elle lui provoquait même des malaises. Alors les phobies sont des peurs irrationnelles, puisqu'on sait notamment que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Mais comme on le disait avec Paul en plaisantant, en riant, il me disait « c'est quand même pas fou de s'inquiéter quand on sait qu'on s'assoit sur 24 000 litres de kérosène lancé à 800 km/h à 12 000 mètres d'altitude ». C'est pas fou. Alors Paul ne voulait pas de médicaments, il cherchait une solution de fond. Nous avons commencé par explorer les causes de cette peur en parlant, car les phobies ont toujours une bonne raison d'exister, qu'il faut prendre soin d'analyser et d'écouter. Puis nous avons utilisé l'hypnose pour qu'il apprenne à utiliser un état d'apaisement comme un repère de sécurité, ce qu'on appelle une sorte d'ancrage. Et à la troisième séance, je lui ai proposé d'utiliser un casque de réalité virtuelle avec un logiciel professionnel thérapeutique. Il s'est donc retrouvé virtuellement à marcher dans un aéroport, monter à bord d'un avion avec toutes les séquences dans la passerelle, décoller, affronter des turbulences, dans une immersion très réaliste, mais libre, sans ce sentiment de perte de contrôle que l'on ressent dans l'angoisse.
Pourquoi ça marche, docteur Chaboche?
Parce qu'avec la réalité virtuelle, les études montrent que le cerveau active les mêmes zones émotionnelles que dans la réalité, mais tout en étant conscient du caractère artificiel de l'expérience et d'être en sécurité dans un cadre thérapeutique. L'exposition progressive et contrôlée avec l'accompagnement et la présence du thérapeute permet de diminuer l'intensité de la peur. Et grâce à la plasticité cérébrale, le cerveau va créer de nouvelles pensées et modifier les comportements face aux stimuli initialement redoutés. Cette thérapie intégrative, combinant hypnose, approche cognitive et exposition virtuelle, a permis à Paul de m'envoyer une carte postale du Pérou quand même. Alors la thérapie par réalité virtuelle, qui n'est pas recommandée aux enfants de moins de 7 ans, et se limite à un usage ponctuel, jamais systématique. Peut-être un complément, et j'ai bien dit un complément, efficace dans le traitement du stress post-traumatique, des troubles compulsifs, aussi utilisé en rééducation, pour les vertiges ou après les accidents par les kinés. Et beaucoup d'hôpitaux s'en sont équipés pour diminuer le stress et la douleur au bloc opératoire. Alors Ali, l'être humain a toujours créé des outils pour s'adapter, c'est vrai. Quand il a façonné la pierre pour en faire une lame, il s'est retrouvé face à un choix, construire ou détruire. Avec la réalité virtuelle, la même question nous est posée. On ne met pas un couteau entre les mains d'un enfant. Comme le dit Béatrice Lombard, qui est une infirmière et philosophe, aucune technologie, aussi séduisante soit-elle, ne peut permettre l'économie de la relation. L'avenir se joue à pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux, et sans écran.
On se regarde les yeux dans les yeux, mon cher docteur Chaboch. Tous les épisodes de la chronique « Quoi de neuf, docteur » d'Adrien Chaboch sont à podcaster sur l'appli Radio France.
Allez, Rébé.
Bon, Michael, t'es sûr que tu veux une histoire ?
Grand bien vous fasse.
Ouais, ok, on est là pour faire plaisir. Je sais pas, alors qu'est-ce que tu veux ?
Je veux la Super Nintendo !
La quoi ?
La Super Nintendo !
Sur France Inter.
Vit-on un désastre sanitaire, une pandémie numérique face à la surexposition des enfants aux écrans ? C'est notre thème ce matin et nous accueillons Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Quelle est votre question ?
Alors moi, c'est pas une question,
non, c'est un constat.
Un constat, voilà. C'est ce que je disais, j'ai deux petits garçons, dont un qui est en maternelle, qui a 4 ans, et qui me rapportait que tous les jours où ils mangent à la cantine, en revenant de l'école, on leur met un dessin animé. Alors c'est pas un dessin animé, c'est la Pat' Patrouille, hein. Enfin, pas systématiquement, je pense. Mais et puis également les jours où il pleut, au lieu d'aller dehors, bon alors après ça je peux comprendre, hein, mais ils ont une salle de motricité, et ben il leur arrive aussi de regarder des dessins animés. Donc voilà, nous c'est vrai qu'on fait attention, on essaye de faire attention, de limiter, etc. Et du coup, ben c'est pas très crédible, quoi.
Agnès Fabre, qui est professeure de lettres en collège et en lycée.
Oui, on vous rejoint tout à fait. Il nous semble que l'école doit être exemplaire et en relais des parents. Et c'est pour ça qu'on prône pour zéro écran en maternelle, même quand il pleut, même quand c'est quelques minutes. En fait, en maternelle, l'enfant, il a besoin de découvrir le monde, de manipuler, de jouer, de courir. Et l'école peut avoir ce rôle de montrer l'exemple, d'autres activités à faire à la maison. Juste un petit exemple à Madrid. La semaine dernière, la région a annoncé une régulation très stricte du numérique à l'école. Donc pas de numérique pour les devoirs à la maison, pas d'écran jusqu'à 3 ans et des temps très très limités à l'école. Il me semble qu'il faut qu'on aille vers ça en France, de réguler ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui on n'a aucune consigne en fait. On a plutôt une injonction à utiliser le numérique à l'école, sans conscience des risques sanitaires pour les
enfants. Merci beaucoup Fabienne de nous avoir appelé. Une question qui revient pas mal ce matin, comme celle de Patricia. Et la télé ? Je fais partie de l'ancienne génération où nous regardions la télévision. Qu'en est-il ? Sylvie Diosica, co-autrice avec votre mari Eric, de l'enfant écran.
Bah c'est plus du tout la même chose, moi aussi, hein, je fais partie de cette génération. On a regardé le mercredi la télévision, il y avait une différence majeure, il y avait vraiment un début, un milieu, une fin. Actuellement, c'est la permanence, c'est des contenus particulièrement qui rendent particulièrement captifs les enfants. Et donc, on ne parle plus du tout de la même chose. J'ai beaucoup de grands-parents qui me disent ça. J'ai élevé ma fille avec les écrans, regardez, elle va bien, pourquoi pas mon petit-fils. Maintenant, c'est plus du tout ça qu'on donne. C'est 24 heures sur 24, encore une fois, c'est téléchargeable partout. Et surtout, les contenus sont faits pour rendre l'enfant captif. Et donc, c'était pas la même chose quand ça s'arrêtait. Et là, actuellement, ça ne s'arrête plus.
En fait, depuis toujours, il y a eu des écrans à la maison. La télé en bruit de fond. Mon fils, c'était plutôt les portables. L'écran de mon téléphone portable qui restait des heures et des heures. Ça pouvait arriver une demi-journée, facilement. Il regardait des vidéos.
Je voyais pas de mal, parce que c'était des émissions pédagogiques.
Regarde, il se dispute. Peu à peu, le comportement de Riley inquiète sa maman.
Riley, il parlait pas. Arrivé à 2 ans, il avait toujours pas... Il disait des petites choses, mais ça voulait rien dire. Il m'appelait pas maman. Il pointait les choses du doigt et il prenait ma main pour faire les choses. Il s'enfermait un peu dans une bulle et c'était très compliqué de l'en sortir parfois.
L'arrêt, ça a dû être drôlement difficile, j'imagine.
C'était la pire période de ma vie.
La pire période de votre vie. Le sevrage, comme on dit, c'est vraiment un moment très difficile. Qu'est-ce qu'il faisait ?
Il criait, il pleurait, il se tapait la tête contre les murs. Il regardait les lumières en hurlant.
Ouais.
Et il bougeait un peu comme ça devant la télé.
En se balançant devant la télé.
La télé, les surfaces vitrées.
Extrait du magazine de la santé en 2022. Consultation à l'hôpital Jean Verdier à Bondy en Seine-Saint-Denis. Dans votre consultation, Sylvie Diosica.
Riley, il va très bien maintenant. On a plusieurs années de recul et la maman Jennifer, c'est une maman ressource qui a très envie qu'on donne son nom et qui se bat pour dire on ne me l'avait pas dit. On m'avait même dit que c'était pédagogique, éducatif et je me suis fourvoyée. travailler et j'ai entraîné des grandes difficultés pour son enfant du fait d'une exposition qui était totalement inadaptée.
Alors,
qu'elle s'est fait avoir.
Quelle est votre ordonnance, docteur Sylvie Diosica, face à la surexposition aux écrans? Une mesure assez radicale.
On est obligé, parce que moi j'ai tâtonné, ça fait depuis 2017 que j'ai créé cette consultation, 2018, enfin bref. Et donc au fur et à mesure, j'ai essayé d'évaluer avec les parents, et en fait la seule chose qui marche, c'est un sevrage total. Parce qu'encore
une fois...
Il faut
tout arrêter d'un coup.
Mais oui, parce que ces enfants se sont retrouvés de 1h, 2h, 3h à 6h par jour, c'est la seule chose qui les capte, qui les intéresse. Et si on le laisse, les parents sont dépourvus, ils ne peuvent plus l'arrêter. Donc il faut arrêter totalement.
Jusqu'à quel âge on arrête tout?
Moi, les enfants que je vois, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc on arrête tout complètement. Mais là, on parle d'enfants qui ont été très exposés très précocement. Donc la meilleure façon de faire, c'est vous, parents, faites-vous confiance, arrêtez les écrans pour votre enfant, arrêtez vous-même l'usage de l'écran que vous avez, arrêtez la télévision en arrière-plan, on n'en a pas parlé, mais chez les petits, ça a un impact important, et rentrez en contact, sortez, allez dehors, parce que les enfants d'intérieur, on ne l'a pas dit, c'est ce qu'on est en train de créer actuellement, ils ont besoin d'être à l'extérieur et avec des parents disponibles. Ça marche.
Jusqu'à 6 ans, non, docteur Servan Mouton?
Jusqu'à 6 ans. Pas d'écran.
Pas d'écran.
Avant 6 ans. Et après, un usage modéré, pas forcément quotidien, qui doit s'intégrer dans un cortège d'activités épanouissantes pour l'enfant.
Agnès Fabre, enseignante.
Moi, j'ai des élèves plus grands. Je dirais que pour le smartphone, il faut attendre au moins 15 ans pour donner un smartphone à ses enfants.
Ouais.
Le smartphone, c'est l'objet que vous emmenez partout avec vous. C'est ce qui fait qu'en fait, vous avez accès tout le temps à Internet. Un enfant est en danger quand il est seul sur Internet non accompagné. Et ça doit être...
Mais que faire face à la colère de l'enfant à qui on arrête les écrans d'un coup, quand on le sèvre seul, et que faire face à l'ado qui veut son portable à 11, 12, 13 ans? Qu'est-ce qu'on fait face à cette colère et aux conflits qui sont inhérents à ce type de problématique, Sylvie Diosica?
Je réponds pour l'enfant et ensuite l'adolescent éventuellement, puisque on parle beaucoup des moins de 4-5 ans. Ça s'apprend. Et donc les parents doivent réapprendre. Donc évidemment, on leur dit pas arrêter les écrans, point barre. On leur dit la captologie, on leur explique ce qui s'est passé, on leur dit la nécessité de leur disponibilité et que effectivement pendant une semaine ça va être très dur. Et d'ailleurs les parents le racontent très bien. Et puis après ils disent, il sort de sa bulle. J'ai vu ses yeux, il regarde en haut, il me regarde. Et donc ça s'apprend, c'est dur pendant une semaine. Il faut que tout le monde s'y mette. Moi je mets toute la famille et je réexplique comment l'enfant apprend par le jeu. L'adolescent, c'est encore une autre histoire.
Éric Osica.
Et puis la surexposition, elle est familiale. Donc c'est vrai qu'il faut diminuer les temps d'écran de l'enfant et des parents. Et en fait, très naturellement, les choses vont de nouveau réapparaître. L'enfant va de nouveau regarder sa maman aura de nouveau envie de jouer, l'enfant va jouer et de nouveau, les choses naturelles qui sont de l'interaction, l'aller-retour avec son parent, la remise en place de ce réseau social du cerveau qui se reconnecte, il se fait et c'est lui qui va permettre d'avancer malgré les difficultés.
Agnès Fabre.
Moi, je dirais qu'il ne suffit pas en effet d'interdire, mais il faut expliquer. Et je pense, pour les adolescents, ils ont besoin de comprendre. Ils sont très, très sensibles au fait qu'ils sont en fait les produits des réseaux sociaux, qu'en fait, ils sont captifs, exactement. Et il me semble qu'il y a deux choses. D'abord, il y a la pression sociale. Un adolescent, c'est extrêmement dur de résister quand toute sa classe a un smartphone. Nous, ce qu'on promeut, c'est le pacte smartphone. C'est une association de parents qui se mobilise pour s'engager collectivement, au niveau local, à attendre avant d'avoir un smartphone. Pacte smartphone. Et ensuite, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'on fait quand on a pas de smartphone. Quelle place on donne en fait aux ados, aux enfants, quand ils sont pas devant les écrans? Et il me semble que d'abord, l'école aussi doit être exemplaire et doit être ce lieu de désintoxication numérique, dont parlait un ministre il y a quelques mois, pour apprendre en fait à vivre quelques heures sans son téléphone dans la poche. Et donc il faut le supprimer entièrement à l'école et au collège.
Docteur Servan Mouton.
Ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que on a beaucoup parlé de la responsabilité des parents, des ados, un petit peu, dans leur usage, mais ce ne sont pas les premiers responsables. Les premiers responsables, ils sont deux, à mon avis, ex aequo. Ce sont les industriels qui déploient des trésors d'inventivité et de créativité pour mettre en place des applications qui vont justement nous faire passer le plus de temps possible et revenir le plus souvent possible sur nos écrans. Et les deuxièmes, ce sont les politiques qui n'ont pas été à même de réguler cette industrie, et qui, aujourd'hui encore, peine à faire appliquer une régulation qui pourtant a été votée au niveau européen, et qui peine aussi à diffuser de façon massive un discours à jour des connaissances scientifiques.
Et n'hésitez pas avec vos enfants, avant 6 ans, de manger sans les écrans, de sortir des jouets qu'on manipule ensemble, de regarder, de lire des livres ensemble, de se balader dans la rue, dans la nature avec ses enfants. Il est nécessaire de multiplier les possibilités de se rencontrer, parents et enfants, sans les écrans. Merci beaucoup, beaucoup, Servan Mouton. Je recommande Écran, un désastre sanitaire. Il est encore temps d'agir dans la collection Tract de Gallimard, c'est pas cher du tout. Un livre court mais percutant, Sylvie Diot-Sica et Eric Osica, L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique. Il faut lire ces deux livres-là en ce moment. Et merci Agnès Fabre, votre collectif.
Vous pouvez adhérer à notre association Éducation numérique raisonnée.
Redites-le.
Éducation numérique raisonnée.
Il faut le marteler.
Rends bien vous fasse. Un podcast France Inter.